Salut à tous, re-bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode d'Au Café avec. Cette fois, petite spéciale, on fait ça le lundi, en pleine finale du championnat de Suisse de hockey, à quelques jours du match de la Suisse contre la Lettonie à la Vaudoise Arena. Emmanuel Favre du Sport Center est allé à la rencontre de Marc-Anthony Hanner, vice-président de la Ligue Suisse de hockey, en charge des amateurs, des filles et des espoirs, et c'est vraiment très intéressant. Le Vaudois d'adoption parle de tout, du coach national à la relève qui tarde à pointer le bout de son nez. Bonne écoute d'Au Café avec.
Salut Marc-Anthony Hanner.
Salut Manu.
Merci de me recevoir dans ton bureau ici à Hollon. Tu es le vice-président de Swiss Ice Hockey, la deuxième personne la plus importante dans l'organigramme du hockey suisse. Et sans te faire offense, j'ai l'impression que peu de romans le savent.
Ouais, c'est un petit peu normal, mais t'as raison. Parce qu'en fin de compte, je suis aussi le président du hockey amateur, espoir et féminin. Puis on est un petit peu moins dans la lumière.
Alors on va essayer de t'y mettre un peu aujourd'hui, parce que je pense que tu le mérites. Et on est aussi à quelques jours, autant qu'aujourd'hui nous sommes le 18 avril, il est 18h. C'est un soir où le Lausanne Hockey Club va jouer son acte 2 de la finale contre Zurich. Et dans 6 jours, le 26 avril, l'équipe de Suisse que tu incarnes va jouer un match de préparation pour le championnat du monde à Lausanne, justement. Mais juste pour te présenter, quelques petites questions, Marc-Anthony. Si je te dis que tu es un Suisse-Allemand qui est devenu roman, puis qui aime tellement la Suisse romande qu'il n'a pas envie de retourner en Suisse allemande, est-ce que c'est vrai ou pas?
Ouais, ça fait très très longtemps en tout cas que je suis en Romandie, c'est plus de 45 ans, mais je ne suis pas seulement Suisse allemand, je suis aussi anglais, quoi. Et j'y tiens quand même à ses racines.
Ouais, c'est vrai, et fan d'un club de Premier League, je crois. Hein.
West Ham United.
D'accord, comme quoi tu n'as pas que des défauts. Il paraît aussi que sur un coup de tête, un jour où tu es mal luné ou bien luné, tu es capable de prendre ton sac à dos, d'y plonger une brosse à dents, deux slips, de prendre un billet d'avion, puis de te faire inviter chez l'habitant ou l'habitante à Lima ou Pérou, c'est vrai?
Ouais, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que je suis un grand voyageur. J'ai toujours aimé voyager depuis jeune âge. C'est peut-être les racines que j'ai de la part de mes parents. Mais j'ai écumé de nombreux pays à travers ce monde et je n'ai pas fini. C'est ouais. Ça qui est beau.
Alors, tu ne peux pas tous nous les raconter. Si tu dois nous raconter brièvement un voyage, un coup de cœur, un moment de tes nombreux voyages qui t'a marqué et qui a peut-être contribué à faire ce que tu es aujourd'hui.
Ouais, tu sais, c'est plus la rencontre des gens qui m'intéresse. Et puis, en fait, les gens que je rencontre, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Nord ou je ne sais où sur cette planète, c'est toujours l'échange qui me plaît. Puis même si c'est court, même si c'est le temps d'une bière, une autre vision, une autre chose, puis tu repars sur ton chemin, quoi. C'est ouais. Surtout ça qui me plaît.
Ouais, magnifique. On m'a dit aussi que toi, même si tu es suisse, tu aimes bien les produits suisses, les montres suisses, tu aimerais bien que les montres changent de cadran, puis plutôt qu'en avoir 12, il y en ait 14, parce que des journées de 28 heures, ça serait l'idéal pour toi.
Ah bah dis donc. Non, mais c'est vrai que je discutais souvent à l'époque avec Jeannot Martinet, puis il me disait toujours, Marco Tenitze, la journée est faite pour travailler, la nuit il y a des ampoules. J'ai bien retenu ce genre de truc. Oui, j'ai pas honte de le dire, j'aime travailler, ouais, j'aime travailler, mais parce que c'est la passion, que ce soit le hockey sur glace ou mon métier, ben effectivement, c'est une passion.
Ouais. Tu parles du hockey, justement, il se dit que dans le monde du hockey, les acteurs de la glace te remercient d'avoir accroché les patins un jour pour faire dirigeant, parce que tu serais bien meilleur dans ta fonction de dirigeant que tu l'étais sur la glace. Vrai ou pas?
Ouais, moi je pense que je suis un meilleur buteur comme dirigeant que sur la glace. Ça, pertinemment, ouais. Et puis, j'ai plus un tempérament de gagneur en tant que dirigeant qu'en tant que joueur. Ça, c'est vrai, à part ça. Hein. J'ai développé ça, peut-être.
T'étais quoi comme type de joueur? C'est quoi le plus haut niveau auquel tu as joué? Dans lequel tu as joué?
J'ai joué en première ligue. J'étais un attaquant. un attaquant qui aimait pas trop le mot back-checking et puis qui était bien sur l'aile parce qu'on pouvait disparaître un peu, quoi.
D'accord, donc en fait, tu as joué quelques saisons, mais tu n'as jamais vraiment connu ton gardien. Aux soirées de fin d'année, tu devais te présenter à lui pour enfin faire connaissance.
Ça m'arrivait, ouais, effectivement. Mais bon, comme on s'entendait assez bien, ou je m'entends bien avec ces gars particuliers que sont les gardiens, bon, on buvait quelques bières quand même ensemble. Et puis ça nous a permis de faire connaissance hors de la glace.
Parfait. Bah écoute, tu es vice-président de Hockey Suisse, comme je l'ai dit, mais ce n'est pas un métier, en fait. C'est une fonction. Ton métier est différent. On est dans ton bureau ici, au collège, à Hollon. Mais quand je regarde ton bureau, on peut vraiment se demander ce que tu fais vraiment dans la vie, puisque je vois des demi-cannes de hockey, des pulls de hockey qui sont suspendus, des pucks un peu partout, au sol, une patinoire que certains entraîneurs ont su plexiglas pour expliquer la tactique. Explique-nous ce que tu fais dans ce bureau.
Ben voilà, je suis directeur d'école de 4 sites d'école avec 830 élèves, 120 employés. Et ça, c'est mon métier vraiment de base. Et à côté, j'ai un mandat, effectivement, dans le hockey sur glace. Ce qui fait que j'ai un bureau qui est plus un bureau détente, hein, le puck. Le puck, c'est surtout des presse-papiers. C'est aussi des moyens de se détendre un tout petit peu quand c'est plus difficile. Mais il n'y a pas que du hockey là-dedans. Il y a aussi des dossiers un petit peu plus sérieux et puis un ordinateur. Il y a beaucoup de choses dedans.
Avant de rentrer dans les dossiers, comment est-ce qu'on rentre, on devient vice-président du hockey suisse? Est-ce que tu as eu besoin, comme dans les grandes élections politiques, d'aller serrer des dizaines de mains pour te faire connaître? Est-ce que c'est quelqu'un un jour qui te téléphone parce que, par rapport à ce que tu as pu faire par le passé? Pour les gens qui ne le savent pas, tu es quand même la personne qui avait créé le tournoi international M17 de montée où des mégastars sont passés. Si on prend la liste des joueurs qui sont passés par là, il y a quand même le gratin du hockey mondial d'aujourd'hui. Ou est-ce que c'est toi qui avais vraiment envie de faire ça et puis qui est allé faire toc-toc au bureau à Zurich pour dire « voilà, je suis Marc Montoni ». Ça se passe comment, en fait?
Ben, c'est sûr, c'est un peu comme je suis devenu directeur, c'est sur un malentendu, en fin de compte. C'est pas des choses que j'ai cherchées, absolument pas. Mais lorsque j'ai raccroché les patins, j'ai arrêté, j'avais 25 ans, j'avais fini, je savais que je voulais pas continuer, comme ça. Puis j'ai eu un président de club qui m'a dit « on se reparle dans une année ». Puis en fait, il est venu me chercher comme vice-président d'un club, pour pas le nommer, c'est le Villard HC. Et puis, je suis rentré dans cette fonction, puis ça me plaisait bien. Ça me plaisait beaucoup plus que d'entraîner, alors que voilà, j'ai une formation aussi pédagogique, pas seulement. Mais moi, mon idée, c'était de donner un coup de main à la gestion d'un club. Et puis forcément, parlant un petit peu les langues, on m'a demandé d'être le représentant un peu des romans en Suisse allemande. Ce que j'ai fait avec plaisir. Et au moment où j'ai voulu arrêter vraiment tout ça, parce que je me suis dit, waouh, c'est bon maintenant, hein, ça date de 2017, fin 2017. Ben, il y a mon prédécesseur qui était aussi un roman, pour pas le nommer
Jean-Marie Viaco, la Niliard, voilà, servir à disparaître numéro 2 après Jeannot Martinet.
Absolument. Et il m'a dit, écoute, il faut que je trouve quelqu'un qui me succède un tout petit peu. Puis j'ai dit, ça c'est bien, t'as raison, il faut que tu y bosses un tout petit peu. Et puis c'est là où il m'a dit, ça t'intéresserait pas. On commençait à discuter, et puis comme ça se fait toujours. Et une des conditions, c'était très clair, je n'avais pas envie de me battre pour être élu et puis faire une campagne, pas du tout. Soit les gens étaient convaincus que je pouvais être la personne, soit c'était quelqu'un d'autre. Mmh. Puis je crois que les Suisses-Allemands étaient contents qu'ils aient quand même un gars qui parle le Suisse-Allemand. Les Romands étaient contents d'avoir un Welsh. Les Tessinois, eux, ils s'adaptent. Donc, à l'unanimité, ouais, ça fait le deuxième mandat que j'ai maintenant.
D'accord. Et t'aimes ça?
Ouais, j'adore. J'adore ça parce que c'est tellement varié. Et puis, c'est pas du tout comme on pourrait se le représenter peut-être de l'extérieur. Puis de se dire, oh, c'est un peu fonction de fonctionnaire, etc. Non, c'est tellement varié. Mais après, c'est ce que tu en fais aussi. Puis l'investissement que tu veux y mettre. Tu peux faire plan-plan si tu as envie. Ou bien alors, tu t'investis puis tu y vas.
l'image qu'on peut avoir de l'extérieur, c'est une bande de gaillards plutôt sympathiques, hein, mais costard, cravate, qu'on sort lorsque l'équipe de Suisse est là. Disons que le sourire n'est fait pas, c'est pas vraiment quelque chose qui fait partie de la mission. Assez éloigné quand même de la base, mais qui adore aller sur les photos, les rares fois où l'équipe de Suisse gagne. Mais tu cadres pas avec ce profil. Je pense que la dernière fois que tu as dû mettre une cravate, c'est parce que tu étais obligé. Ouais. Et puis tu me semble que tu préfères passer tes matchs dans les gradins autour des drapeaux et des buveurs de bière que dans les tribunes principales en deux verres de champagne.
Alors, ça fait partie de la fonction, hein, mais c'est vrai que je suis celui qui ne veut pas mettre de cravate parce que je pense que ce n'est pas l'habit qui m'est important, c'est ce que j'en fais, qu'elle a. Et j'aime être proche du monde, j'adore les gens, j'adore discuter avec les personnes et puis j'adore parler de vrai hockey. Puis ma mission, c'est de parler aussi avec les fans, c'est de parler aussi avec des présidents de petites équipes ou de petites ligues, entre guillemets, parce qu'ils font un travail incroyable. Donc oui, je sais que je détonne un tout petit peu, mais je crois qu'il y a plein de gens qui aiment ça, puis ils se disent, ben, ça c'est un peu le fou du roi, quoi.
Mais tu es considéré parmi le collège des décideurs, ou on te considère comme le fou du roi?
Alors non, il y a énormément de respect, je dois le dire, et surtout qu'ils savent aussi que je représente toute cette partie latine, et puis qu'ils ne peuvent pas raconter n'importe quoi, parce que je maîtrise quand même pas si mal le suisse allemand, donc ça aide. Non, non, il y a aussi de ce que j'ai pu faire par le passé, et il y a un beau respect. Par contre, je suis authentique, je dis ce que je pense. J'aime mes visions, j'aime mon idée, j'aime débattre, mais je ne vais pas me soumettre.
Ouais. Quand vous vous rencontrez, je sais pas, tu me diras, chaque combien de temps, vous parlez de quoi? Vous parlez pognon, vous parlez sponsor, vous parlez jeu, vous avez des projets de développement du produit. C'est quoi les ordres du jour du conseil d'administration de Swiss Ice Hockey?
Conseil d'administration Swiss Ice Hockey, alors ça regroupe effectivement de pas mal de ces petites choses. Alors, on se voit normalement 4-5 fois par année. Et puis après, en plus, il y a tout ce qui est à côté. On est d'accord. Puis au besoin, plus. On parle effectivement de sport, mais si on parle de sport, c'est stratégie. C'est aussi échanger avec les directeurs qui sont là. Forcément, on parle de la situation. Nous sommes en charge des finances, en fin de compte. Donc, avaliser les budgets, contrôler également ce côté-là. Bien sûr, de savoir où tu en es avec les sponsors, ça fait partie du jeu. On rigole aussi, hein, quand même.
C'est vrai.
Mais il ne faut pas déconner. Hein.
La prochaine fois, tu me fais une vidéo parce que j'ai de la peine à te croire.
Non, non. On passe de bons moments. Et puis, je crois que on met aussi cette valeur de l'échange sur chacun ses perspectives, parce que ce conseil d'administration, il est quand même composé d'un 50% du hockey amateur espoir féminin, puis d'un 50% de ce qu'on appelle le sport professionnel. Hein. Mm-hmm. Suisse allemand dirait le Leistungssport, mais je dis toujours que on est deux mondes à se côtoyer et dont on a besoin.
Est-ce que vous prenez aussi des décisions par rapport à des choix sportifs? Plus concrètement, est-ce que le conseil d'administration a son mot à dire sur le choix du sélectionneur de l'équipe nationale?
Alors là, tu abordes un sujet qui est intéressant, parce que c'est toujours de savoir est-ce que tu es dans l'opératif ou est-ce que tu es dans le stratégique. Et puis, c'est de trouver cette balance, parce qu'en fin de compte, il y a un CEO, il y a plusieurs directeurs qui sont là. Alors, en ce qui concerne l'entraîneur national, oui, c'est le conseil d'administration, qui a quelque chose à dire. Dans un nomination committee, alors c'est une partie du conseil d'administration qui discute de tout ceci avec le CEO, avec le directeur des équipes nationales. Et puis après, on rapporte ça au conseil d'administration ensemble, et puis on prend une décision.
Alors, tu vas me voir venir, je dois te poser la question.
Non, je ne te vois pas venir.
Comment est-ce qu'on peut, lorsqu'on est dirigeant du hockey suisse, concéder un nouveau, offrir un nouveau contrat, peut-être c'est un bon choix, à un entraîneur qui fait que perdre? Je pense qu'il y a dans aucune fédération au monde, alors je n'ai pas vérifié au Fidji, au Mexique, si je dois te le dire, où un entraîneur qui...
Tu devrais.
qui a, je crois, 11 ou 10 défaites consécutives, qui fait que perdre en quart de finale depuis des années. Alors certes, une médaille d'argent dans une autre décennie, et c'est naturel dans l'impression. On fait, aux Jeux Olympiques, c'est catastrophe. On a presque l'impression qu'au dernier JO, passe la Suisse, a fait les quarts de finale, c'est un exploit parce qu'au jeu précédent, elle était tombée en précart. Et ça continue, toujours avec la même personne. Est-ce que je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de fédérations où ça se passe comme ça. Il n'y a pas beaucoup de clubs où un entraîneur se passe comme ça. À titre personnel, je te dis franchement, Marc Andoni, je connais très bien Patrick Fischer quand il était joueur. C'est le roi des gars. Pas de problème avec l'homme. Hein, ce n'est pas contre lui. Mais est-ce que c'est un bon message de continuer avec un homme qui fait perdre?
Alors, c'est une grande décision hein, que la fédération a dû prendre. Après, moi, je repeins un petit peu ton tableau. Là, mais venant de toi, je sais comment tu dessines et tu peins ce tableau-là. Et je le prends vraiment avec le sourire
aussi. Je ne suis pas Picasso. Hein.
Non, ça, j'ai compris. Mais je dirais simplement que il faut voir un tout petit peu aussi l'analyse un peu différemment. Oui, on perd. Maintenant, il y a une dizaine de matchs, là. Ça, c'est certes. On joue contre les meilleurs, ce qu'on ne jouait pas avant. Franchement, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Parce qu'on peut aller jouer la Grande-Bretagne. Moi, ça me fera plaisir en tant qu'Anglais. On peut aller jouer le Mexique, si tu veux, également, etc. Et puis, on revient avec des victoires. Ça, c'est peut-être une des choses. Ça ne pardonne pas tout. Après... Regardons un petit peu les championnats du monde, les matchs que l'on a joués, et on a quand même ces deux derniers championnats du monde, combien de victoires aux championnats du monde dans le tour qualificatif. Par contre, je donne raison que quand on arrive dans ces matchs décisifs, c'est plus difficile par rapport à ça. Donc là, je pense que si le hockey, c'est une chose... Moi, j'y mets un petit peu sur la mentalité de notre pays, notre ADN, hein, quand même, de gagner, peut-être d'avoir une fin un petit peu différente. Maintenant, quand au renouvellement, c'était aussi de se dire, mais un, on n'est pas loin de nos championnats du monde à la maison, 2026. Qu'est-ce qu'on veut bousculer là-dedans? On le fait ou on ne le fait pas? À quel moment? Ça, c'était c'est évident. Et puis après, moi, je me dis toujours également, qu'est-ce qu'on signe comme contrat? Et je pense qu'une des qualités de Patrick Fischer, c'est aussi l'honnêteté avec lui-même, quoi. Et une des choses qui est assez claire, qu'il le sait, et il avait remis son mandat, hein, il avait dit au dernier championnat du monde, mais si on pense que... Voilà, la porte, elle est ouverte. Et puis, il n'y a pas le cachet, quoi. On va évaluer ce qui va se passer, quoi. Et il n'y a pas de pardon. Hein.
Mais évaluer pardon. Vraiment,
oui,
c'est pas toi,
par les résultats.
J'ai quand même le souvenir qu'après le dernier échec, appelons-le comme ça, au championnat du monde, élimination contre l'Allemagne en quart de finale, dans un non-match, il avait été convenu dans les minutes qui ont suivi, c'est un échec, on va analyser, communiquer les raisons. Je pense qu'il a fallu attendre en gros 6 mois pour trouver dans un rapport à l'alinéa BZ18, 8K, je crois, 8.
Mais 3... là, tu l'as trouvé.
Ouais, parce que je l'ai bien cherché pour trouver le rapport.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est un travail de fond qui a été fait. Alors, tu me diras, la communication, jusqu'où il faut aller, je peux partager qu'on peut peut-être ouvrir plus. J'estime qu'on a déjà ouvert. Pour rassurer un petit peu, je vais avoir un entretien sur la stratégie de communication parce que là aussi, je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Oui, on va prendre des décisions, c'est sûr, après ces championnats du monde. Il faudra qu'elles soient rapides. Si on doit prendre, si on est en face d'un échec. Maintenant, moi, ce qui m'attend et ce que je trouve très important, et là, je vais avoir vraiment l'œil aiguisé, c'est les matchs qui nous attendent à partir de demain. On est à Bâle, on joue la France, on va jouer la Lettonie, et là, je dois dire que ben, c'est des équipes qui sont à notre portée. On ne parle plus de la Suède, on ne parle plus de la Finlande, qu'on tutoie aussi. Mmh. Hein, on arrive à se regarder dans les yeux, mais moi, j'attends maintenant des victoires, ouais. Absolument.
Vous sentez, je dis vous, c'est la fédération, ou toi particulièrement, début de pression des sponsors. Ils veulent être associés quand même à une Suisse qui gagne.
Non, mais
ou ce n'est pas encore une réalité, ça.
Non, franchement, ce n'est pas une réalité. Après, c'est normal. On a envie d'être avec nos partenaires. Puis on est tous à être un petit peu chauveux, j'espère en tout cas. Puis qu'on a envie d'une Suisse qui gagne. Moi, j'ai envie d'une Suisse qui gagne. Il y a eu les championnats du monde des dames. J'étais, à un moment donné, je n'étais pas content. J'ai pris mon téléphone. Puis j'ai discuté avec le CEO. Puis j'ai dit, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on y aille. Moi, j'aime ça aussi, ça fait partie. Puis c'est de temps à autre, c'est de sortir un petit peu de sa fonction, puis d'être le type un peu émotionnel. Donc ouais, j'attends quelque chose de fort hein, ces prochains jours.
Okay. Intéressant de le dire. Et si on prend un petit peu de recul, bah, je te provoque sur le sélectionneur. Il me pose aussi des fois des questions de fond. Tu parles des dames. L'équipe de Suisse, ah, on leur fait un petit dépeint, un petit peu le portrait. Donc les dames, pour ceux qui ne le sauraient pas, ont joué le championnat du monde à Utica, aux États-Unis. Étaient dans le groupe A. Hein. C'est ouais. Le groupe A, enfin, le mondial est scindé en deux groupes de cinq équipes. La Suisse a perdu ses quatre premiers matchs et elle a perdu son quart de finale. Elle a juste gagné son match de barrage pour se maintenir dans le haut du tableau. En gros, c'est ça. Dans le même temps, on a l'équipe de Suisse des moins de 20 ans, et Dieu sait si c'est une équipe qui est importante hein, pour l'avenir. C'est de plus en plus difficile hein, à exister. De temps en temps, il y a un exploit à se retrouver en demi-finale, mais c'est quand même rare, en tout cas sur une base régulière, de faire des points. Est-ce qu'il n'y a pas un problème structurel dans le hockey suisse quand on identifie, on regarde un petit peu les joueurs qui sont les ténors d'une équipe nationale, ils n'ont pas fini leur junior en Suisse pour la plupart. La National League avec ses 6 étrangers offre moins de temps de glace de qualité aux joueurs suisses et donc moins de plat de développement aux jeunes joueurs suisses. La Swiss League se cherche une identité. Le hockey féminin n'a pas de public quand même en Suisse. Il y a maintenant une ligue qui se connaît, mec du Nord, peut-être qui peut avoir des perspectives de développement. Et on me dit que les ligues juniors de référence, en fait, sont en train de piquer du nez parce que le niveau baisse. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème un peu structurel sur lequel les dirigeants dont tu fais partie doivent être sensibles pour essayer d'y remédier?
Je crois que tu as fait exprès de me lancer deux, trois perches là, parce qu'on y est. Hein? Et puis tu as raison. Une des choses peut-être à dire, effectivement, on a, pour le hockey féminin, il y a une stratégie maintenant qui est en place depuis une année sur le développement de hockey féminin. Et puis on est vraiment en devenir, on a trouvé un sponsor pour la ligue, il y a des choses sur la promotion pour les filles, etc. On voit l'augmentation des effectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui roule, qui est en route. Après, il y a toute la question de côtoyer les jeunes. Hein, et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me porte aussi. On a toute la structure que l'on appelle maintenant Impact plus 1, où on va changer la classe d'âge un tout petit peu, parce que on doit être les seuls au monde à avoir des U17, des U15, alors que tout le monde a des U16, des U18. Et on est dans un travail depuis une année avec les clubs. Mais quand je parle de clubs, c'est des professionnels jusqu'aux amateurs, là, à toute une nouvelle stratégie là derrière, avec ce changement d'âge, effectivement, qui englobe plein d'autres détails, règlements, etc. derrière, afin de justement donner du temps un peu plus à tous ces joueurs au niveau d'apprentissage de leur sport et de pouvoir tutoyer peut-être les meilleurs du monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est en place et qui est voté actuellement. Donc les nombreux comités qui existent dans une fédération. Je rappelle qu'une fédération, c'est les clubs hein, qui l'a créé, là, et qui va nous amener à une décision au mois de juin. Pour l'instant, tout est ouvert. Il y a eu des analyses qui ont été faites. Il y a du travail qui a été fait par des gens qui sont du... Ce pas des fonctionnaires dans les bureaux, hein, c'est des gens qui sont sur la glace, la fédération avec les clubs. Et ça, j'ai bon espoir, parce que ben, ça, c'est un des challenges que moi j'ai, c'est de mener à ce que le hockey amateur adhère à tout ceci. Et là, on est bien parti. Donc ça, c'est quelque chose en route. Maintenant, on prend peut-être les ligues actives. Puis dans les ligues actives, ben, on se pose la question de cette Swiss League. Ceux qui me connaissent un peu, qui suivent un petit peu les quelques fois où j'apparais dans les médias, c'est pas ce que je cherche le plus. Là, j'ai dit oui, ça fait un moment que je dis il y a quelque chose à faire avec la Swiss League. Mais si je prenais le sujet Swiss League, Première Ligue, je peux en faire un livre, hein, de raconter l'historique de tout ça. Aujourd'hui, on doit se reposer les questions et on a communiqué ça à mi-mars. On a mis une task force en place, celle qui est menée par le président de la fédération, notre nouveau président, avec qui on a trouvé un bon rythme. On a vraiment trouvé un bon rythme de travail ensemble, ainsi que notre CEO Patrick Bloch. Et puis à partir de là, il y a encore deux, trois autres personnes, éléments clés, où on va repenser un tout petit peu toute la structure de l'actif. Parce qu'on sait, la National League, nous on est 14, là. Mais on va aller rencontrer les présidents, on voit les présidents également de la National League, pas les general managers, pas les CEO aussi, de voir les présidents, puis d'avoir ces échanges-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose en route.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que tu attends, toi ou la fédération? Qu'est-ce que pour le bien du produit, du hockey suisse, du développement, du plateforme pour nos jeunes, il faudrait quoi? Il faudrait moins de clubs de National League, il faudrait moins de joueurs étrangers pour donner du temps de qualité à nos jeunes.
Tout le monde est conscient et tout le monde est d'accord, mais qu'il faudrait 12 équipes en National League. Simplement, je peux comprendre ceux qui sont 14 là-bas. Il n'y a personne qui va dire que j'ai envie de descendre par rapport à ça. Après, il faut voir les opportunités qu'on a à faire. C'est de redéfinir qu'est-ce qu'on veut donner comme identité à la Swiss League, en fin de compte. Est-ce que c'est une ligue professionnelle ou une ligue professionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire, une ligue professionnelle? Est-ce qu'on veut faire de la formation là-dedans? Est-ce qu'on veut avoir des joueurs que de 25 ans là-dedans? Est-ce qu'il faut avoir des étrangers, pas des étrangers, en National League? Est-ce que vous voulez vous intéresser à la Swiss League? Qu'est-ce que vous avez envie d'être partenaire là-dedans? Ou bien c'est simplement donner des joueurs là-dedans? Ben, moi, j'ai un avis assez tranché. Hein. Et puis, moi, je n'ai pas changé. Mais après, je sais qu'il n'était pas partagé. Et aujourd'hui, il est partagé. Là. Je dis clairement, en haut, s'ils veulent rester 14, ils restent 14. Entre la My Hockey League et puis la Swiss League, on trouve... je dis 14 équipes, peut-être 16. On fait deux groupes. Je n'ai rien inventé. Hein.
Ouais.
J'invente rien.
1980, c'est ça.
Ouais, après, j'invente rien, mais par rapport à ça, et je dis ben, peut-être que là, on peut avoir gardé les derbies, on peut croiser. Il y a plein de trucs au niveau des modes de championnat. Je l'ai dit il y a 3 ans. Il y a un personnage très influent du hockey suisse, je ne l'aimerais pas comme CEO, qui m'a dit en sortant de la salle, on a tous voté, on a tous dit, ouais, Marc-Anthony, là, tu... Non, à ça, mais je suis sûr que tu as raison, ça vient un petit peu trop vite. Et je rigole un tout petit peu parce que tous ces personnes, maintenant, ça fait maintenant 3 ans, on est en train de parler peut-être d'une des solutions. Mais c'est une des solutions. Il y en a d'autres, peut-être, qui vont sortir, mais je crois que... Il faut regarder un tout petit peu Swiss League, My Hockey League, ce qu'on peut faire. D'autres avaient dit aussi les U20 Elite que tu as apporté comme sujet. C'est vrai qu'il n'allait pas bien, ce championnat. Et pour le suivre assez régulièrement, il devient à nouveau meilleur. Ce qui fait qu'on a quand même toujours des joueurs qui partent à l'étranger. On a ça. Mais je crois qu'il y a le phénomène du hockey sur glace, d'aller le rêve américain, que je comprends, mais c'est aussi beaucoup plus facile aujourd'hui. Et puis, nos jeunes, en général, moi qui suis dans la formation, directeur d'école, mais combien de jeunes qui postulent chez moi, quand je regarde leur CV, ils ont fait une année en Allemagne, dernièrement, il y avait quelqu'un qui a fait une année au Danemark, etc. Donc, on voit que ça bouge quand même passablement. Nous, on doit mettre de la valeur dans nos U20 élites, mais une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin encore du U20 élite ? Alors là, je provoque. Hein. Est-ce qu'on s'arrête à U18 ? Puis à partir de U18, on les fait jouer avec des hommes ? Peut-être. J'en sais rien.
Il faudrait peut-être tester. Il faudrait peut-être tester aussi sur d'autres formats de patinoire aussi. Pour,
On
voit quand même qu'il y a beaucoup de ligues européennes qui vont sur le format des petites patinoires aussi. Ouais. Il y a peut-être plein de choses à pouvoir tester.
Mais ça, c'est une possibilité, hein, à part ça aujourd'hui, puisque ceux qui font le renouvellement de nouvelles patinoires, etc., demande à avoir des standards NHL un tout petit peu, ça en fait partie. Ben, y a d'autres sujets, hein, la durabilité qui vient là derrière, bref, on peut trouver plein de choses. Mais ouais, c'est des sujets qui nous portent et je peux te promettre, on a un nouveau président depuis septembre. Nous, on a appris à travailler ensemble depuis juin 2023. C'est feu, gaz. On y va, il fallait lui laisser aussi un petit peu de temps qu'il prenne la température. Mais maintenant, on est en avant, quoi. Mais il ne faut pas attendre quelque chose pour demain matin, ouais. Non plus.
Un peu les gens qui l'ignoraient, il s'agit quand même d'un ancien star du handball. En Suisse allemande, c'est un sport quand même qui compte et qui a aussi une expérience de joueur. Il a été professionnel de nombreuses années, international de nombreuses reprises. Il a porté drapeau de la Suisse olympique aux Jeux olympiques d'Atlanta. Oui. Donc, un vrai passé de sportif, donc une sensibilité qui peut aussi aider la cause. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu un président qui était proche du jeu.
Oui, et puis ce qui me plaît bien, c'est qu'il a l'idée du team player, d'être une équipe. Et puis maintenant, on a vraiment décidé qu'avec le CEO, chaque fois qu'on était ensemble, si c'est un sujet, peu importe le sujet, amateur, professionnel, arbitrage, etc., on est ensemble. Et puis ça, déjà, montrer aussi aux gens que ce n'est pas juste un président là, un fonctionnaire par-ci ou par-là.
Le match de l'équipe de Suisse à Lausanne, le 26, tu vas les suivre dans les tribunes debout avec Stéphane Scherrer ou bien dans la tribune Champagne?
Alors, j'ai un double emploi ce jour-là, parce qu'en même temps, si je peux exercer toute cette fonction et ce mandat, je le dois beaucoup à mes collaborateurs. Mes collaborateurs le plus proches au travail, à certains amis, à mes proches aussi, à mes enfants, forcément. Et puis, je les invite. Donc, je prendrai un moment avec eux. Mais après, j'ai aussi cette fonction, effectivement, mais sans cravate, où je dois accueillir avec plaisir. Franchement, avec plaisir, nos sponsors, les personnes qui sont là. Ça fait partie aussi de ce job quand tu dis oui à cela. Puis après, j'ai pour habitude d'aller me perdre un petit peu tout seul pour que je puisse voir quelque chose. Mmh. Et je ne sais pas où je serai, mais peut-être entre deux fans.
D'accord. Mais justement, les fans, ils les comprennent pas forcément. Et on ne connaît pas forcément l'historique non plus. Là, on a Lausanne Hockey Club qui est en finale du championnat de National League pour la première fois de son histoire. Le match de l'équipe de Suisse contre la Lettonie à Lausanne est prévu, il est agendé entre les actes 5 et 6 de la finale. Comme nous sommes le 18, on ne peut pas savoir à cette heure-ci s'il y aura des actes 5 et 6. Mais si c'était le cas, franchement, est-ce que très concrètement, ça signifie qu'à la Fédé, lorsque vous avez décidé d'accorder ce match à Lausanne, vous étiez sûr et certain que Lausanne n'avait aucune chance de jouer la finale à ce moment-là?
Mais pas du tout. En plus, je suis vaudois quand même, hein, comme citoyen. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que les matchs internationaux, ça se prépare avant. On se pose la question avec les clubs, hein, de dire, dis donc, tu peux accueillir. Ah, peut-être lui peut être en finale, pas en finale. Puis après, c'est les clubs qui se mettent d'accord. Mais là, il y a un sacré challenge. personne se disait à un moment donné, est-ce que ça va être Lausanne, est-ce que ça va être une autre équipe, etc. Moi, ce qui m'était le plus important, c'est qu'on ait un match en Romandie. Hein. Mm-hmm. Ça, je vous dis, hein, je me bats pour ça. Je veux qu'on ait toujours, en tout cas, un match. J'aimerais en avoir plus, également, de l'équipe nationale. Ça va se faire. Puis là, ben, tant mieux pour Lausanne et je suis très content. En tout cas, qu'il soit un roman final à nouveau. Et puis, ben, il y a un challenge logistique qui est là derrière.
Ça s'est passé comment, l'octroi de ce match? Pourquoi Lausanne? C'est quand c'est ce que Lausanne a postulé? C'est vous qui avez proposé? C'est quand la démarche de recevoir un match?
Alors, il y a des clubs, il y a des clubs qui demandent. Il y a aussi après de l'argent qui a été donné pour certaines infrastructures. À un certain moment, on doit ensuite, la fédération a l'obligation d'y s'y rendre pour de la formation, pour des matchs, des tournois des jeunes, etc., tout ce que l'on fait. Et puis après, ben, pour moi quand même, ça fait un parti d'un des stades, des beaux stades que l'on a. Et l'équipe nationale adore, et le staff de l'équipe nationale adore cette patinoire. Donc on s'approche, pour moi c'est normal, et moi je défends ça. Si c'est pas Lausanne, je vais jouer à Fribourg, et si c'est pas à Fribourg, Lausanne, peut-être une fois à Genève dans la nouvelle patinoire, mais c'est comme ça que ça se passe. Ouais.
Et à ce stade, du fait que Lausanne est en finale, est-ce que c'est plus difficile de vendre des billets?
Alors, pour toute honnêteté, je n'ai pas demandé. J'ai eu le directeur du marketing. Je n'ai pas posé cette question-là. On sait que l'équipe nationale ne remplit pas la patinoire lors des matchs, malheureusement, amicaux ou de préparation. Moi, je me dis que ben, peut-être qu'il y a des gens... Je sais qu'ils ont travaillé avec le club du Lausanne sur des billets combinés, par contre. Alors, je ne sais pas où ils en sont, ce que je trouve merveilleux. Mm-hmm. Franchement, si on arrive à faire ça, c'est top. J'imagine que si Lausanne devait jouer à la maison, ce que je lui souhaite, ça sera guichet fermé. Donc tous ceux qui n'ont peut-être pas eu un billet pour le LHC, les couleurs sont les mêmes, peuvent venir à l'équipe de Suisse avant.
Est-ce que, je ne sais pas si tu sais déjà cette question, enfin cette réponse, mais l'équipe de Suisse, enfin je trouve que Patrick Fischer, et je l'écris une fois, donc je vais lui dire la même chose, a plus bordé de nouilles, quoi. Lorsqu'on peut recourir à certains joueurs de référence en NHL, puisque les New Jersey Devils... Ils étaient favoris pour en tout cas aller en demi-finale cette année et ils sont complètement plantés. Mmh. Ce qui fait que le club le plus suisse de la NHL en fait, fera pas les playoffs et que des Nico Hischier, des Timo Meier, des Jonas Siegenthaler se retrouvent, s'ils sont en santé, je ne sais pas, à disposition de l'équipe de Suisse. Mmh. Est-ce que tu as des infos? Est-ce que tu sais si ces joueurs pourraient rejoindre la sélection de la semaine prochaine et se retrouver sur la glace à Lausanne?
Alors déjà, je pense que c'est bien pour le grand public aussi de savoir comment ça se passe, ça, parce que ce n'est pas au dernier moment. Ça veut dire que l'encadrement, le staff de l'équipe nationale, durant l'année, va les trouver aux États-Unis, discute avec les managers des clubs, etc. Et c'est une des questions, si vous n'êtes pas, est-ce que vous libérez de joueurs? On sait toute la problématique des contrats, en fin de compte. Donc, c'est des choses qui sont déjà auparavant discutées. Après, il y a la forme du joueur. Quand est-ce qu'ils sont éliminés? À quel moment? Est-ce que, voilà, il faut leur donner un petit peu? Et on sait qu'il y a des joueurs qui jouent des play-offs et puis, ou des saisons, puis ils sont à moitié blessés par rapport à ça. Mais moi, je n'ai rien à divulguer ce soir, mais c'est vrai que Patrick Fischer, s'il peut compter sur les gars, les petits gars des New Jersey Devils, ben, c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est ça, au championnat du monde, en tout cas. Ben, je pense à ça, je me souviens, je crois que c'était... première sélection de Nico Hischier et c'est un hasard total de calendrier, c'était en Valais. Je crois que, sauf erreur, il a joué son premier match officiel avec l'équipe de Suisse à Sierre.
C'était à Sierre.
Je ne sais plus contre qui, mais je pense que si le vieux Graben avait eu 30 000 places, ils auraient vendu 30 000 billets quoi, ce jour-là. Quoi.
Oui, ouais. Bien sûr. Ben, c'est ce qui est important et c'est vrai que si Timo, si Nico, des gars comme ça, si Guy, ils arrivent, ben, c'est dans les matchs de préparation, ben, on va avoir un peu de monde dans les patinoires aussi.
On peut que c'est l'espérer. Ouais. Qu'ils soient là ou pas, l'équipe de Suisse à Lausanne et ailleurs, et aussi aux championnats du monde hein, qui ont lieu cette année en République tchèque, l'équipe de Suisse va jouer avec un maillot sur lequel il y aura une armoirie suisse, c'est ça ou bien bien.
Je te voyais venir. Je me suis dit, à quel moment à quel moment j'ai le droit à ceci? Ouais, ça, c'est un truc de fou quand même. Hein. Mais moi, je parle là à titre personnel, quoi. Je me dis, mais non, on est fiers, non, dans ce pays, de représenter notre drapeau. Après, moi, qu'il soit de n'importe quelle forme, etc., c'est ça qui est important. Je n'ai pas l'impression qu'on ait fait, je ne sais pas, quelque chose de criminel.
Non, juste pour le contexte, parce que peut-être les gens l'ont oublié. Donc, il y a à peu près un mois de ça, on a appris qu'il y avait un département de la Confédération suisse qui a attaqué l'équipe de Suisse du hockey sur glace parce que les joueurs suisses portaient un maillot avec l'armoirie de la Suisse lorsqu'elle représentait la Suisse sur la scène internationale. C'est ça le contexte.
Oui, c'est un bon résumé.
je pense que ça, les arrière-petits-enfants de tes petits-enfants, ils en feront des livres un jour. En disant, mais nos aïeux, ils étaient quand même cons.
Maintenant, voilà. C'est qu'il y a des lois, des règlements, moi on peut les respecter, mais je crois pas qu'on ait fait quelque chose d'incroyable. Et quand ça a été décidé, c'était avant des choses. Maintenant, il faut juste un peu du BSP ou du BSM. Moi, j'aime bien ça, le bon sens paysan ou le bon sens montagnard. Puis, on va trouver quelque chose.
Mais là, c'est citadin, c'est dommage.
Ouais, là j'ai vraiment envie...
Ça n'a pas évolué. Là, donc, on en était qu'à un dépôt de plainte. Ouais. Ça n'a pas évolué. Il n'y a pas eu d'évolution, de résolution.
Moi, je sais pas. C'est pas un sujet que je suis. On sait qu'on peut aller jusqu'au championnat du monde 2026 avec le maillot comme il est là. Donc, si les gens veulent l'acheter, puis peut-être qu'il sera collector à ce moment-là, un jour, ou bien, on trouvera une solution. Mais on va trouver une solution quand même.
D'accord, je te le souhaite vivement, puis merci de nous donner du grain à moudre, parce que ça, c'est extraordinaire de ce côté, de ce côté-là. D'ici le match à Lausanne, d'ici les championnats du monde, il y a, faut pas croire que ton rôle, c'est justement d'être dans les tribunes, d'aller t'évader un tout petit peu, comme tu l'as dit avant. Donne-nous, pour que les gens puissent se rendre compte de quel est vraiment le rôle d'un vice-président sur le terrain, peut-être 2-3 rendez-vous, déplacements que tu fais pour concrètement qu'on puisse réaliser sur le terrain à quoi sert en fait un vice-président du hockey suisse.
Je le sers. Je sers le hockey. Hein. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de séances, je participe. C'est 280 clubs. Hein. C'est 280 clubs, c'est d'aller visiter les clubs, d'avoir le contact proche pour sentir ce qui se passe dans les clubs. Après, on a des projets sur le recrutement, donc participer avec les gens qui font l'education chez nous, et puis de développer ça, d'accueillir les gens, d'être dans des séances, de donner l'input aussi stratégique. Qu'est-ce que moi, je pense, de fédérer les personnes. Je fais 40 000 km pour le hockey par année. Hein. Donc, j'ai vu à peu près 80 matchs, mais de la 4e ligue à la National League, et puis en passant par le hockey féminin et puis les jeunes également. C'est de ressentir qu'est-ce qui se passe vraiment de l'intérieur pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Après, c'est d'être aussi présent pour des clubs qui sont en difficulté, peut-être, de voir des solutions. Alors, on ne peut pas tout faire.
Martini, récemment.
Il a fallu parler. Effectivement. C'est de dire aussi, je vais trouver des grands clubs et puis de discuter avec eux un tout petit peu comment ils collaborent avec les plus petits clubs. Quand il y a des clubs, des plus petits qui doivent peut-être se regrouper, et puis que c'est une guerre de clochers, c'est parce que, voilà, c'est comme partout, ça arrive, on joue le rôle de médiateur un tout petit peu. La politique, moi je dis toujours lobbying, politique. Alors, c'est mon travail d'être proche. Il y a quelques mois en arrière, on a invité tous les conseillers d'État en charge du sport en Suisse, parce que c'était ma volonté de leur parler, puis de dire qui on est, puis ce qu'on faisait. Donc ça fait également partie de ceci. Aller vers les arbitres, moi, c'est un monde des no refs, no games. Ça a l'air comme ça, comme slogan, mais ça fait partie d'être avec eux, de discuter, de les entendre aussi, quelles sont leurs problématiques. Donc, c'est très, très varié, puis c'est ce qui me plaît bien. Puis après, bon, il y a aussi pas mal de travail individuel, là, du mailing administratif qui fait partie. Et de soutenir, peut-être la dernière des choses, d'être ici aussi en soutien des collaborateurs de la fédération, les directeurs, les employés. Moi, j'aime bien, j'ai des employés ici à l'école, de plein de métiers différents. J'aime bien être proche d'eux, discuter, échanger. Je suis un gars d'équipe. Et puis, je fais un petit peu la même chose au hockey. Quoi.
D'accord. Ben, merci beaucoup pour ton temps. C'était un plaisir. Tout de bon pour la suite. Plein de succès à l'équipe de Suisse, même avec Patrick Fischer.
Je te remercie. Ciao.